Galates 1, versets 11 à 24. On peut y lire, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à Dieu, plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es ce Dieu saint devant qui les anges proclament sans cesse « Saint, 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 l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Et qui suis-je, moi, Seigneur, pour me présenter devant toi, sinon qu'un homme aux lèvres impures? Mais dans ta grâce, Seigneur, tu nous as révélé Jésus-Christ. Quelle grâce tu nous as fait, Seigneur! Un jour, Christ est venu dans le monde pour nous sauver, en mourant sur la croix pour nos péchés. Seigneur, je ne dirai jamais assez merci pour ce merveilleux cadeau de ton amour que tu m'as offert, qui me rend pur et qui maintenant me permet d'entrer dans la présence du Dieu Saint. Seigneur, c'est devant toi qu'on fléchit le genou ce matin. C'est devant toi qu'on se présente. Et on veut avoir ta bénédiction sur nous ce matin. Bénis-nous, Seigneur, et on goûte déjà ta bénédiction à travers ce qu'on a eu, juste simplement le fait d'être ensemble, la louange. Seigneur, merci pour ta bénédiction qui est sur nous. Seigneur, je vais prendre le temps quand même ce matin de te prier pour ceux qui ne sont pas au milieu de nous, qui souffrent, qui ont été empêchés de venir avec nous ce matin, qui ne peuvent pas goûter cette bénédiction d'être unis en assemblée ce matin, réunis en assemblée. Et ma prière, c'est que tu puisses être avec eux, que tu puisses leur accorder ta grâce et ta compassion. Je pense à ceux qui sont malades, qui sont retenus. Et Seigneur, étends ta main bénissante sur eux afin qu'ils puissent goûter ta présence aujourd'hui dans leur vie parce que tu habites dans leur cœur par ton esprit. Merci Seigneur de nous consoler lorsqu'on vit des épreuves, et je te prie d'être avec eux. Je te prie d'être aussi avec Yannick, notre pasteur bien-aimé, qui est dans cette période de repos, que tu puisses lui accorder ta grâce de retrouver une intimité profonde avec toi pendant ce temps de repos, que tu puisses le conduire dans ses réflexions, que tu puisses lui donner ta sagesse à travers ses réflexions, afin qu'on puisse recevoir de ce leader que tu as mis en place sur cette église, dans cette église, et être une église qui marche pour ta gloire et pour l'Évangile. Bénis-le, Seigneur, avec sa famille, dans ses recherches, dans son repos. Et Seigneur, ce matin, on a lu ta parole, on est devant toi, comme je disais, et on veut recevoir de toi, soit avec nos cœurs, nos pensées, calme nos tracas, Seigneur, qui nous empêcheraient d'être concentrés sur ce que tu as à nous dire ce matin. Qu'on puisse avoir des cœurs sensibles à ta parole. Vivifie-nous par ton esprit, Seigneur, afin qu'on puisse recevoir ces paroles comme les tiennes et que je puisse être un messager utile entre tes mains. C'est en ton nom que je te prie. Amen. Amen. La semaine passée, on a commencé cette série dans l'Épître aux Galates, dans le chapitre 1, les premiers versets. On a vu l'introduction de cet épître-là et on voit à travers cet épître que Paul est troublé, profondément troublé. Au verset 6, on voit que Paul est troublé par le fait que les églises, les gens dans les églises de la Galatie se sont détournés de l'Évangile en acceptant un autre Évangile, un Évangile qui place les œuvres comme étant nécessaires pour obtenir le salut plutôt que de se confier totalement dans la personne de Christ et la liberté que Christ apporte. Et Paul est profondément troublé par ça et je ne l'ai pas mentionné la semaine dernière, mais dans l'Épître aux Galates, il y a quelque chose de spécial qu'on ne voit pas dans les autres épîtres, qui n'est pas dans l'Épître aux Galates, puis qu'on voit dans les autres épîtres. Au début des autres épîtres, on voit Paul qui bénit Dieu pour l'œuvre qu'il fait dans l'Église, et même si l'Église ne va pas bien, comme l'Église de Corinthe, il y a une bénédiction, il dit « Je loue le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire ». Mais on ne voit pas ça dans l'Épître aux Galates, parce qu'il est profondément troublé, puis tout de suite, il attaque le problème du détournement de l'Évangile, le fait que les gens se sont détournés de l'Évangile pour se tourner vers un autre Évangile. Et il y a des gens dans l'Église qui troublent l'Église, des enseignants qui annoncent un autre Évangile, et Paul veut adresser ces choses-là. Et on a vu ensemble combien l'Évangile est vrai, combien l'Évangile est puissant pour sauver. Et on a vu à travers ça aussi combien nous-mêmes, parfois, par des faux raisonnements, on peut arriver à considérer que l'Évangile n'est pas suffisant pour notre vie. Mais on veut apprendre de l'apôtre Paul, apprendre de la parole de Dieu et s'approprier cette vérité que l'Évangile est tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Et ce matin, dans les versets 11 à 24, on voit Paul entamer une conversation, un moment dans l'Épître qui va occuper une bonne partie de l'Épître, qui va se rendre jusqu'au chapitre 2, où il va commencer à clairement défendre son ministère et le ministère de l'Évangile. Parce que ceux qui troublent les églises sont en train d'attaquer le messager. Et en attaquant le messager, ils attaquent le message. Et en attaquant le message, ils amènent les gens à se détourner de l'Évangile. Et Paul a besoin de se défendre comme messager, comme apôtre établi par Dieu pour annoncer l'Évangile. Et dans les versets 11 à 24 ce matin, c'est ce qu'on voit. Paul commence à démontrer et à travers ce texte-là comment l'Évangile qu'il a reçu ne vient pas de lui-même, mais vient de Dieu. Et on entend souvent, lorsqu'on écoute dans les médias, et surtout ces jours-ci avec la commission Charbonneau, les témoignages de plusieurs personnes, des personnes qui viennent témoigner de qu'est-ce qui s'est passé dans l'industrie de la construction ces nombreuses dernières années. Et on voit que les témoins, dans un sens, parfois, se mettent les pieds dans les plats, qu'ils se trahissent eux-mêmes. On voit que les procureurs essaient de vérifier la crédibilité du témoignage. Et dans un sens, c'est ça qu'on cherche à faire. Lorsqu'il y a un témoin de quelque chose, on veut s'assurer que son témoignage est crédible. Et si lui-même n'est pas crédible, et dans un sens, son témoignage n'est pas vrai. Et c'est ce que, dans un sens, on voit dans l'Épître aux Galates, on voit un peu ça. Paul est mis à l'épreuve, dans le sens, on remet en question sa crédibilité, mais Paul va attaquer ça. Et à plusieurs niveaux, ça nous apprend des choses. Parce que nous aussi, parfois, la crédibilité de la parole de Dieu et sa vérité peut parfois nous troubler. Souvent, on peut être ébranlé dans notre foi parce qu'il y a des gens qui nous demandent raison de notre foi puis ils nous posent des questions difficiles ou même ils vont faire des affirmations qu'on entend souvent qui vont un peu miner le témoignage des Écritures. Souvent, quand on témoigne ou à des gens autour de nous, qu'est-ce qu'on entend par rapport au témoignage des Écritures? On entend, la Bible a été écrite par des hommes. Et si la Bible a été écrite par des des hommes, il y a des erreurs là-dedans, puis je peux pas m'y fier. Et donc, on voit cette attaque-là. Une autre attaque, c'est les disciples se sont tous concertés pour monter tout un beau bateau, puis écrire une histoire pour embarquer le monde dans leur affaire. Leur affaire, dans le fond, ils voulaient faire de l'argent, puis ils se sont mis ensemble, ils ont monté une belle histoire. Puis, finalement, c'est pas vrai cette histoire-là, c'est juste un arrangement avec les disciples. Une autre façon de remettre en question la vérité des Écritures. D'autres, plus subtils, dans certaines églises même, les disciples disent vrai, mais ils racontent quelque chose de spirituel. Et les faits qui nous sont racontés dans les évangiles ne sont pas nécessairement des faits qui se sont passés, mais plutôt leur perception de qu'est-ce qu'ils ont vécu sur un plan spirituel, et ils nous racontent ça. Donc, on peut pas se fier pleinement à leur témoignage. Ce qu'il faut faire, c'est en enlever un petit peu, puis essayer de chercher, d'enlever ce qui est mystique pour chercher vraiment quel était le message. Et dans ce sens-là, encore une fois, on met en question la crédibilité des Écritures. Et même parfois, on a notre témoignage, nous-mêmes, on raconte notre témoignage et les gens remettent en question notre témoignage. On voit des choses, des moments où on voit Dieu agir dans notre vie. On raconte, hey Dieu, j'étais dans telle situation, Dieu est intervenu, ça a changé de tout au tout, Dieu m'a changé. Puis là, c'est vrai pour toi, là. Puis c'est ce que toi t'as vécu, mais c'était tout un concours de coïncidences. T'étais pas conscient de tout. Toi, t'attribues ça à Dieu, mais c'était juste des coïncidences qui font que ça s'est passé de même. Même notre témoignage de ce qu'on a vécu dans notre vie est remis en question parfois. Et on a besoin, comme croyants, d'être convaincus, d'être affermis pour donner raison de notre foi. Et c'est ce que Paul fait dans l'Épître aux Galates. Il va en quelque sorte défendre l'Évangile, défendre sa foi dans l'Évangile. Et de cette même façon, nous aussi, on a besoin que l'Évangile, on soit affermi, qu'on soit capable de défendre. Peut-être pas les grands érudits, mais capable de donner raison pour notre foi, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et en fait, en quelque sorte, Paul est attristé de ce qui se passe dans l'Église aux Galates et c'est ce qu'il va faire. Il va défendre. Mais il est tellement convaincu de la véracité du message qu'il a apporté et il a tellement à cœur les gens dans les Églises afin qu'ils soient affermis dans l'Église qu'il vient adresser ces choses-là. Et il va apporter des raisons pour lesquelles on doit croire que l'Évangile est vrai. Et dans ces raisons-là, on trouve dans ce texte et on peut affirmer que l'Évangile est vrai car il vient de Dieu qui manifeste sa grâce et sa puissance par des vies transformées pour sa gloire. L'Évangile est vrai, pas parce qu'il vient d'un homme, mais parce qu'il vient de Dieu, que Dieu manifeste sa grâce et sa puissance par des vies transformées pour sa gloire. On voit quelques éléments dans cette déclaration et on va décortiquer tout ça un petit peu ensemble. Et j'aimerais, en quelque sorte, qu'on voit ensemble trois actions qui découlent de la véracité de l'Évangile et de son œuvre dans nos vies et qui nous aident, nous, à donner raison pour notre foi. Donc, trois actions qui découlent de la vérité de l'Évangile et de son œuvre dans nos vies qui nous aident à défendre l'Évangile. Premièrement, une première action qu'on doit faire, c'est croire que l'Évangile est un message qui vient de Dieu. Croire que l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, apprécier la grâce et la puissance que Dieu a manifestée par l'Évangile dans nos vies. Et finalement, glorifier Dieu pour les vies transformées par l'Évangile. Croire que l'Évangile vient de Dieu, apprécier la grâce et la puissance de Dieu dans nos vies, puis glorifier Dieu pour l'Évangile, sont trois actions qui nous affermissent dans l'Évangile, dans notre foi, qui nous aident à proclamer l'Évangile et à le défendre. Et on va voir ensemble ce premier point. Nous croyons l'Évangile, car c'est un message qui vient de Dieu. C'est ce que Paul va dire au verset 11 et 12. La première chose qui est remise en question, c'est le message de l'Évangile, et Paul va l'adresser tout de suite. Je vous déclare, frère, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et donc, Paul a reçu l'Évangile, pas tout bonnement comme ça, dans un sens que ça l'a surgi dans son cœur, puis il a décidé de mettre ça par écrit. C'est pas un message qui vient de lui. Il l'a même pas reçu même de d'autres apôtres. Il l'a reçu d'une révélation de Jésus lui-même. Et le message, et c'est ce qu'il va tenter de défendre pendant ce court chapitre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que l'Évangile, c'est une révélation de Jésus-Christ. La bonne nouvelle est révélée dans la personne de Jésus-Christ. Avant même que Paul puisse connaître Jésus-Christ, Christ est venu. Et on a vu la semaine dernière, l'Évangile, qu'est-ce que c'est? Et Paul déjà l'adresse au verset 4 en disant que le Seigneur Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés. Et c'est ce qu'on veut... C'est par le moment par lequel on veut commencer lorsqu'on parle de la révélation de l'Évangile. C'est une révélation qui vient de Dieu par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est venu sur la terre et est venu accomplir ce que Dieu avait décrété. C'était par la volonté de Dieu que Jésus est venu. Jésus s'est donné pour nos péchés. Comme on l'a vu la semaine dernière, je l'ai expliqué plusieurs fois, on veut quand même y plonger les regards encore une fois ce matin. L'Évangile, on veut l'entendre parler. On a besoin de l'entendre parler. On a besoin de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous régulièrement. Même à chaque jour, on devrait se mettre à genoux puis remercier le Seigneur pour l'Évangile. Puis on a besoin de s'en rappeler. Et je ne manquerai pas dans cette prédication-là de parler de l'Évangile. Parce que c'est quelque chose d'important. Puis c'est quelque chose, c'est la vérité que Paul veut adresser. Et l'Évangile vient de Dieu parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Jésus-Christ est venu dans le monde pour venir se donner pour nos péchés. On l'a chanté tout à l'heure. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Pourquoi le sang de Christ avait besoin de couler? Parce qu'on avait besoin d'être purifié de nos péchés. Nos péchés, c'est toutes ces choses mauvaises qui ont déplu à Dieu. Toutes ces actions que j'ai commises devant Dieu qui désobéissait à la loi que Dieu avait établie. Dieu a créé toutes choses. Il a révélé sa volonté aux hommes à travers les Écritures. Et le péché, c'est toute cette désobéissance-là à la loi. Bien souvent, on a des lois dans notre société. Puis, surtout sur la route, des fois, on est tenté d'enfreindre ces lois-là. Et ça m'arrive. Malheureusement, des fois, un petit peu trop pesant, il faut se laquer à pédale un peu pour respecter la loi. Mais je manque à la loi. Mais par rapport à Dieu, dès mon enfance, j'ai manqué à la loi de Dieu. Dieu me demande dans son premier commandement de l'aimer de tout mon cœur. Qui sont ceux ici qui peuvent dire, ils n'ont jamais manqué une seule fois au commandement d'aimer Dieu de tout son cœur. Lorsque je me place devant ce commandement-là, puis je regarde les autres commandements, je réalise que j'ai manqué. Et j'ai manqué en raison de mon péché, en raison de cette nature rebelle envers Dieu. Et Jésus-Christ est venu dans le monde, il s'est donné pour nos péchés. On avait besoin d'être purifié de nos péchés, de toutes ces imperfections, parce que Dieu ne peut pas accepter le péché dans sa présence. Et Jésus est venu, il a versé son sang, et il est venu apporter l'Évangile. La bonne nouvelle de Dieu, qui fait que lorsque son sacrifice a été offert, Jésus a payé la punition pour nous à la croix. Puis on peut, par lui, accepter par la foi ce cadeau du pardon des péchés que Dieu nous offre. Et c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est que par moi-même, je ne suis pas capable d'atteindre Dieu parce que je suis un pécheur. Ça me prend quelqu'un qui vient, qui me prend ma place pour dire, moi j'ai été juste devant Dieu, puis je te donne ma justice pour que toi tu paraisses juste et pur devant lui. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et Jésus est venu révéler l'amour de Dieu aux hommes. Et il nous en a parlé, et les disciples ont vu ces choses-là. Il est venu pour manifester l'amour de Dieu, l'amour de Jésus qui est mort pour nos péchés, qui est venu manifester pour nous le pardon. La bonne nouvelle que Jésus nous a apportée, c'est qu'on peut vraiment être entièrement pardonné de nos péchés et finalement avoir la vie éternelle dans la présence de Dieu. C'est par la foi dans cette bonne nouvelle qu'on reçoit le pardon de Dieu et la vie éternelle. Ce message-là, Il est vrai. Parce qu'il vient de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ qui est venu apporter ce message. Mais pas les apôtres. Nous, on ne l'a pas vu, Jésus. On ne l'a pas vu crucifié sur une croix. On ne l'a pas vu ressusciter. Puis, en quelque sorte, ça nous prenait quelqu'un qui nous en parle. Ça a pris quelqu'un, à un moment donné, dans votre vie, qui vous parle de l'Évangile. Mais lui, il l'a entendu de quelqu'un, qui l'a entendu de quelqu'un, qui l'a entendu de quelqu'un, qui finalement, c'était les disciples de Jésus-Christ. Paul, puis les apôtres, étaient les messagers de Dieu. Et apôtre, c'est ça que ça veut dire. Le terme apôtre, c'est pas un terme très populaire dans notre société aujourd'hui, mais ça veut dire messager. C'était le messager, les messagers de la part de Dieu pour apporter ce message-là. Et le message qu'ils affirmaient, c'était que celui qu'ils avaient reçu de Jésus lui-même. Et les autres apôtres, les disciples de Jésus, et les autres, et Paul lui-même avaient reçu ce message-là de Jésus. Les apôtres, parce qu'ils avaient vu Jésus, mais Paul, c'est avec une rencontre un peu spéciale plus tard qu'on voit dans le livre des Actes, où il va rencontrer Jésus. Mais c'est tous les apôtres, dans les Écritures, ont été choisis par Jésus lui-même pour apporter le message de ce que Jésus est venu faire dans le monde. Ce message est vrai parce qu'ils l'ont vu. Ils ont été des témoins oculaires. Et même Jean, entre autres, dans son évangile, va dire, ce que je vous dis là, c'est vrai. Parce que je l'ai vu. Je témoigne de ce que j'ai vu. Puis on l'a touché. Puis on a vécu avec lui. On était là. Puis je vous le dis. C'est un témoin. Il était un témoin oculaire. Et nous, on a reçu le message de Dieu par les apôtres qui ont été des témoins oculaires. Et Paul est tellement convaincu de ce point-là, il va mentionner, entre autres, au verset 10, « Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. » Il fait un serment. « Ce que je vous déclare là, l'Évangile, je l'ai reçu de Jésus-Christ et c'est pour ça que je vous l'affirme, sinon je ne vous écrirai pas cette lettre-là. » Et nous, on a ce privilège d'avoir la lettre de Paul entre nos mains ce matin, de pouvoir la lire et d'avoir le témoignage de Paul. Et Paul était convaincu que le message qu'il avait reçu était le message, le vrai message de l'Évangile. On a, nous, reçu à travers les années la parole de Dieu et plusieurs peuvent remettre en question, comme j'ai dit tout à l'heure, le message des Écritures. Mais on voit que la Bible contient un message qui se tient, qui est solide et ce message-là est un seul, c'est l'Évangile de Jésus-Christ qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Paul va même le dire dans 1 Timothée 1,15, « Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » C'est certain et on a ce message-là dans les Écritures. La Bible contient le message de Dieu aux hommes qui nous a été transmis par les prophètes, les messagers de la part de Dieu et par les apôtres. Donc, quand je me présente devant la Bible, puis je dis, ça a été écrit par des hommes. Ou on peut remettre en question plusieurs choses là-dedans parce qu'il y a des erreurs. Les gens disent ça souvent sans avoir pris la peine d'ouvrir puis de lire. Et une des premières choses qu'on peut dire, c'est si tu es sérieux, es-tu prêt à valider ce que tu dis? Es-tu prêt à valider en allant dans les Écritures, en regardant par toi-même, en cherchant, puis en essayant de voir si ce que tu affirmes est vrai? Et donc, on peut inviter les gens à regarder les Écritures. Et on en entend des témoignages souvent, des gens qui... On a entendu le témoignage d'Alain Caz qui remettait en question les Écritures et la véracité des Écritures. Il a plongé ses regards dans les Écritures et Dieu, par sa grâce, est venu l'éclairer puis il s'est converti au Seigneur. Mais souvent, les gens vont dire ça. Puis on appelle ça dans EE des écrans de fumée, simplement pour dire, parle-moi pas de ton affaire. Puis dans un sens... On veut juste tester, d'être sérieux. Et si tu es ici ce matin, puis tu remets en question le message des Écritures, puis tu n'as jamais pris le temps de lire, peut-être tu devrais prendre le temps d'évaluer, puis de lire, puis d'évaluer pour toi-même, puis prendre, pas prendre des clichés, mais seulement te faire une opinion pour toi-même et lire les Écritures et constater par toi-même que c'est la parole de Dieu, c'est un message que Dieu est venu apporter aux hommes. Souvent, on a besoin d'une preuve pour croire que c'est vrai. Mais Dieu, dans les Écritures, nous a donné, par les disciples, la vérité du message, parce qu'eux autres ont vu la preuve que c'était vrai. Et j'ai pas besoin de... Je me fie souvent aux témoignages de gens autour de moi pour croire un événement qui s'est passé. Eux autres ont été là, ils ont été plusieurs. Plusieurs ont attesté voir ces choses qui se sont passées. Et nous avons l'Évangile dans les Écritures. Alors ça, c'est une des premières choses qu'on doit se rappeler. Ce message-là a besoin d'être cru parce que c'est un message qui vient de Dieu. Il est vrai. C'est le message de Dieu pour nous. Et lorsque on se présente devant les Écritures, on peut affirmer qu'on a le message qui vient de Dieu. Mais non seulement ce message-là mérite d'être cru, mais il mérite d'être apprécié à sa juste valeur. Puis on veut, comme croyants, apprécier l'Évangile à sa juste valeur. L'Évangile, c'est précieux, puis c'est le plus beau trésor qui peut pas exister. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu lui-même nous apporte pour qu'on puisse connaître Dieu puis être en relation avec lui. Y a-t-il quelqu'un de plus précieux que notre Dieu? Personne de plus précieux que lui. C'est le roi glorieux, c'est lui qu'on veut servir. Et lorsqu'on regarde à l'Évangile, c'est notre trésor qui nous permet d'entrer en relation avec ce Dieu-là. Et on a besoin, comme croyants, d'apprécier davantage l'Évangile parce qu'il manifeste la grâce et la puissance de Dieu. Et Paul va expliquer dans le passage comment Dieu lui a fait grâce à travers dans sa vie. Et il va expliquer dans les versets 13 à 16 ce qui le caractérisait avant et comment il est venu à la rencontre de Jésus-Christ. Et dans le verset 13, on lit « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Et ça, c'est ce qui caractérisait Paul. Paul était un homme extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Il regardait la loi, puis il cherchait à être irréprochable devant la loi. Puis il va même le dire dans Philippiens 3, il dit « J'étais irréprochable à l'égard de la loi tellement que je la suivais, puis que j'étais zélé, puis que je voulais plaire à Dieu à travers ça. » Paul était un homme attaché à sa religion, puis tellement attaché au judaïsme que quand une secte, pour lui, une secte a commencé à surgir, les chrétiens ont commencé à surgir comme une secte au milieu du judaïsme, qui disait qu'il faut adorer un Messie, qu'il faut croire en Jésus, hey, ce monde-là sont en train de se détourner de la loi puis de ce que Dieu a révélé, il faut les persécuter, c'est des blasphémateurs. Et il était zélé jusqu'au point de persécuter et ravager l'Église de Dieu. Mais malgré son zèle pour ravager l'Église, ça n'empêche pas Dieu de révéler sa grâce à Paul. Paul était dans un aveuglement complet. Il était convaincu de son affaire. Et dans un sens, il était convaincu de plaire à Dieu dans ce qu'il faisait. Zélé jusqu'au point de dire « Ce que vous me dites là, c'est pas vrai. Puis la loi de Dieu, c'est la vérité. Moi, je suis là pour défendre ça. » Il était prêt à mettre à mort du monde puis les persécuter comme blasphémateurs. Mais Paul, à un moment donné, il est arrivé quelque chose dans sa vie. Il dit, j'étais sincèrement dans l'erreur, mes amis. Parce qu'au verset 15, il est arrivé quelque chose. Il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Il a plu à Dieu de se révéler à Paul. Et Paul, on connaît l'histoire. Il était sur le chemin qui menait à Damas, s'en allait persécuter encore une fois des chrétiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui est apparu puis a dit, « Paul, ben, dans ce temps-là, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il y a eu une révélation extérieure de la personne de Jésus-Christ. Mais Paul, il va dire, vers le début du verset 16, de révéler en moi son Fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul avait entendu l'Évangile en quelque sorte déjà. S'il y avait des apôtres et des croyants qui annonçaient l'Évangile, il savait exactement c'était quoi cette histoire-là. C'est pas que tout d'un coup il a entendu l'Évangile, mais il a rencontré Jésus-Christ. Il y a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus et à travers cette rencontre personnelle-là, Dieu a plu de révéler à Paul sa grâce. Et nous aussi, un jour, Dieu nous a fait grâce. Pour nous qui avons cru en l'Évangile, Dieu nous a fait grâce lorsqu'il nous a révélé son Fils. Ailleurs, dans les Écritures, Paul décrit qu'un jour, ceux qui ont cru ont connu la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et on va le lire ensemble. Je vous invite à tourner avec moi dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. C'est le livre juste avant l'Épître aux Galates. 2 Corinthiens, chapitre 4. Et Paul est en train d'affirmer ici, Dieu s'est révélé, j'ai reçu un message de Dieu, mais plus que ça, j'ai un témoignage à donner parce que j'ai rencontré Jésus-Christ personnellement. Et dans 2 Corinthiens 4, Paul explique comment ça se passe, cette idée-là, que Dieu révèle en nous son Fils. Verset 3, 2 Corinthiens 4, verset 3, ça dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui ne croient pas sont aveuglés. D'une certaine façon, ils ne voient pas l'Évangile briller, ils ne peuvent pas connaître Jésus-Christ parce qu'ils sont voilés. Verset 6, c'est quoi que nous, on a vécu comme croyants lorsqu'on est venu au Seigneur? Verset 6, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et ce qu'on voit dans ce passage-là, c'est que j'avais besoin d'entendre l'Évangile, mais d'avoir une rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui vient puis qui enlève ce voile qui est sur mon cœur pour que je puisse voir, ah, wow! La gloire de Dieu est là. Elle était là devant moi, puis je ne comprenais rien. Puis tout d'un coup, je comprends là, que c'est Jésus qui me sauve. Puis je comprends que maintenant, je dois vivre pour la gloire de Dieu. Puis, hey, je connais Jésus. Là, c'est ça que je veux croire. C'est ça qui nous est arrivé un jour. Peut-être pas de cette façon-là, aussi exaltée. Mais aujourd'hui, j'espère que c'est ça que vous réalisez. C'est qu'un jour, vous avez rencontré Jésus-Christ parce que Dieu s'est révélé à vous. Dans votre cœur, vous avez reconnu que Jésus, c'est votre Sauveur, votre Seigneur, puis qu'aujourd'hui, vous voulez vivre pour sa gloire. Vous avez un témoignage de la grâce de Dieu manifestée dans votre vie qui vous a fait passer d'une personne incrédule à une personne qui croit puis qui obtient la vie éternelle puis le pardon des péchés. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merveilleux. Et Paul, c'est ce qu'il dit. Il n'y a plus à Dieu, un jour, de me révéler son Fils. J'aurais pu rester comme un persécuteur de l'Église, mais Christ s'est révélé à moi. Puis je vous raconte mon témoignage. Je vous raconte ce que j'ai vécu. Puis c'est vrai ce que j'ai vécu. Et il y en a d'autres qui étaient avec lui sur le chemin de Damas. Mais encore plus fort que ça, c'est qu'il y a eu un changement total dans la vie de Paul. Celui qui autrefois persécutait l'Église, puis en voulait à tous ceux qui prêchaient ce message-là, est devenu un homme qui prêche ce message-là, puis qui est prêt à être persécuté puis à souffrir pour ce message-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de ce gars-là? Il y a eu une puissance, la puissance de Dieu qui, par son esprit, a changé le cœur de Paul. Et mon message est crédible parce que regardez comment j'étais avant, puis aujourd'hui, comment je suis. Comment vous rendez témoignage à ça, ce changement qui s'est passé dans ma vie? Et on goûte réellement la grâce de Dieu lorsqu'on est libéré de nos faux raisonnements. Paul a été libéré de ces faux raisonnements qu'il avait dans son cœur. Il était totalement aveuglé, puis Dieu l'a libéré en lui faisant connaître Jésus-Christ. La délivrance des faux raisonnements puis le changement radical dans nos vies démontre la puissance de Dieu puis la véracité de l'Évangile. N'ayez pas peur de partager votre témoignage. Puis quand vous partagez votre témoignage, passez pas votre temps à vous dire comment vous étiez dégueulasse avant. OK? Parce que des fois, on dirait, c'est, hey, regarde, avant, là, j'étais de même, puis j'étais un drogué, puis toute l'équipe, puis là, on met l'accent là-dessus, puis c'est comme si la gloire est la vie qu'il y avait avant. La gloire est à Jésus-Christ qui m'a fait passer de cette vie-là à une vie pour sa gloire. Puis c'est là qu'elle est la gloire. Puis c'est ça qu'on doit dire dans notre témoignage. Parle de ce que Jésus a fait pour toi. Il t'a changé. C'est correct de dire à quel point Dieu nous a changé, mais mets pas la gloire dans ton passé, mets la gloire dans ce que Jésus a fait dans ta vie, puis comment tu vis pour lui aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut parler de notre témoignage. Et c'est ce que Paul est en train de faire. Regardez comment j'étais avant, puis aujourd'hui. Regardez le témoignage que les églises disent, verset 23. Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. Il y a eu un changement radical dans sa vie. Il y a la puissance de l'Évangile qui a été manifestée, qui l'a fait délivrer, qui l'a délivré entièrement de son faux raisonnement. Et lorsque nous goûtons la grâce de Dieu en Jésus-Christ, notre vie est transformée et on voit combien Dieu est puissant. Et même que Dieu est tout puissant pour sauver le pire des pécheurs. Le témoignage de l'apôtre Paul démontre à quel point l'Évangile est vrai et combien il est puissant pour sauver. Puis il peut nous arriver parfois. Dans nos vies, on connaît tous quelqu'un à qui on a partagé l'Évangile. Puis ça prend du temps. Il ne s'est pas converti encore. Puis on perd la foi dans le fait que Dieu a le pouvoir de sauver cette personne-là. On prie depuis longtemps, puis on perd courage. Mais Dieu est encore puissant. Tout puissant pour sauver le pire des pécheurs. Je raconte, ceux qui ont fait le cours eux avec moi, ils ont probablement déjà entendu ce témoignage-là. Puis, désolé si je vous le répète, c'est trop beau. C'est le témoignage. Vous avez tous un témoignage où ce que vous pouvez manifester que Dieu a fait un changement dans votre cœur. Mais j'ai un ami à Québec, un ami, il est pas mal plus vieux que moi, mais c'était un homme qui travaillait dans la boucherie, qui était un boucher dans un supermarché. Un homme qui était antisocial, comme on dit. Le gars, il rentrait travailler le matin. Il parlait à personne. Puis si tu avais le malheur d'y adresser la parole, il te revirait de bord. Toi, tais-toi, puis dérange-moi pas. Un gars, là, antisocial, pas capable, pas parlable. Et puis un jour, il y avait une collègue de travail, une sœur dans l'église, qui voit cet homme-là, puis « Man, ce gars-là, il a besoin de l'Évangile dans sa vie. Mais il n'est pas parlable. Comment je vais faire pour y parler? » Le gars dînait tout le temps tout seul dans son coin. Puis... Fait qu'à un moment donné, elle se décide, elle y va. Elle dit, je m'en vais y parler, puis peu importe comment il me revira, il a besoin de l'Évangile, ce gars-là. Fait qu'elle s'en va y parler, puis pendant l'heure du dîner, pendant l'heure du lunch, elle partage son témoignage, elle partage l'Évangile. Le gars, il regarde son dîner, il dit pas un mot tout le long, il regarde même pas quand qu'elle parle, fait comme s'il n'était pas là. Mais c'est ce qui s'est passé après. Il dit, je suis retourné travailler. Puis tout ce qu'elle m'avait dit, ça résonnait dans ma tête. Puis j'ai pas arrêté de pleurer de l'après-midi. Puis j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Puis aujourd'hui, quand vous allez à l'église, à Québec, à Beauport, le premier qui est à la porte, qui est là, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, ça va-tu bien? T'es-tu content d'être là? Ah, merci Seigneur, gloire à Dieu. Tu sais là, puis le même gars, là. Dieu sauve encore aujourd'hui. Puis des fois, ça se peut que tu en aies un dur à convaincre. Puis je le sais ici, là, je pense à des gens présentement. Ça fait plusieurs années que vous témoignez. Puis des fois, c'est même votre époux, votre épouse à qui vous témoignez depuis des années. Ne perdez pas courage parce que Dieu est puissant pour sauver. Continuez de plaider Dieu pour qu'il puisse sauver et venir le chercher. On a besoin de ne pas regarder à l'apparence des gens, mais regarder à leurs besoins spirituels qui peut complètement transformer cette attitude-là. Et cette personne-là vit pour la gloire de Dieu. L'Évangile est puissant pour sauver. Et ma prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez apprécier davantage la grâce de Dieu envers vous, pour que vous puissiez communiquer cette grâce-là autour de vous. Puis entre autres, les mamans, aujourd'hui, je veux vous parler. Puis Danny nous parle souvent, mais je veux vous parler. Parce que ça peut être difficile parfois, quand on a des jeunes enfants, je le sais, Cynthia, elle vit chaque jour. Oh, la patience, l'énergie que ça demande. Ils ont besoin de connaître Jésus-Christ. Vos enfants ont besoin d'avoir une vie transformée par l'Évangile. Puis ma prière pour vous, c'est que vous puissiez apprécier tellement l'Évangile, que le Seigneur puisse vous donner la patience pour inculquer à vos enfants la parole de Dieu, puis l'Évangile dans leur cœur, afin qu'ils puissent être sauvés. Lâchez pas, ça porte fruit. Des fois, c'est pas évident tout de suite. Mon enfant, Nathan, mon plus vieux, est capable de vous dire l'Évangile en 30 secondes de même. Sa connaissance est pleine. Est-ce qu'il y a vraiment un cœur changé? Je vais le voir plus tard, peut-être plus. Mais persévérez. Parce que moi, j'ai eu des parents. Puis plusieurs d'entre vous avaient eu des parents qui ont inculqué l'Évangile. Puis qu'est-ce qui vous revient à l'esprit quand ça ne va pas bien? Ou quand vous pensez à vos parents, c'est souvent, j'ai reçu l'Évangile de mes parents. Puis merci, papa, maman, de m'avoir enseigné l'Évangile. Alors, c'est difficile d'être une maman à la maison, puis ou d'être une maman au travail, puis en plus de ça, d'avoir à élever les enfants, puis d'enseigner l'Évangile, mais persévérer. Parce que Dieu peut sauver vos enfants. Puis s'ils sont plus vieux, puis vous êtes découragés, persévérez dans la foi que Dieu peut sauver. Paul était convaincu de la véracité de l'Évangile parce qu'il avait goûté la grâce et la puissance de Dieu dans sa vie qui avait provoqué un changement radical. Puis il offre comme preuve aussi que même les églises glorifiaient Dieu à son sujet. Puis de la même façon, nous aussi, on peut apprendre de ces églises-là et glorifier Dieu parce qu'il y a des vies qui sont transformées par l'Évangile. Premièrement, nos cœurs à nous ont été transformés et on veut rendre gloire à Dieu. Nos cœurs ont été transformés par l'Évangile pour qu'on puisse donner gloire à Dieu et qu'on puisse vivre pour lui maintenant. On veut avoir des vies qui sont consacrées au Seigneur. Puis comme je disais tout à l'heure, des fois on a tendance à oublier la valeur de la grâce de Dieu dans nos vies. Puis dans ces moments-là, on perd la joie de l'Évangile. On parle de la joie de la bonne nouvelle, de ce que Christ a fait dans nos vies. Puis peut-être que c'est votre cas présentement. Vous avez, l'Évangile, je parle de l'Évangile, je parle de Jésus ce matin, vous dites, j'ai entendu ça souvent, puis bon. Mais on veut revenir aux paroles de ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Ça, c'est ma prière pour moi. Je veux que cette croix soit toujours chère à mon cœur. Et on a besoin, frères et sœurs, lorsque ça va moins bien, puis qu'on oublie la valeur de l'Évangile, qu'on n'est plus touché par l'Évangile, de venir fléchir nos genoux devant le Seigneur, puis dire, Seigneur, par ton esprit, touche-moi, je veux être touché par l'Évangile. Tantôt, je parlais dans la classe d'école du dimanche, de perte de valeur de la gloire de Dieu dans nos vies, mais l'Évangile fait partie de la gloire de Dieu. Si l'Évangile perd sa valeur souvent, c'est là qu'on perd notre joie. On a besoin de retrouver notre joie, puis notre joie est dans le Seigneur, puis c'est dans l'Évangile qu'on la trouve. Dieu a transformé nos cœurs, on veut donner gloire à Dieu. Mais Dieu a transformé des cœurs de d'autres au milieu de nous, puis on veut donner gloire à Dieu aussi pour ça, comme l'Église a fait. Ils ont entendu Paul qui a été changé complètement, puis nous aussi on veut donner gloire à Dieu. Puis ces dernières années, on a entendu des témoignages de ce qui s'est fait dans l'Église et on entend des témoignages des visites dans EE, le cours La foi chrétienne expliqué. Même la dernière session dans le cours La foi chrétienne, deux personnes ont fait profession de foi puis ont consacré leur vie au Seigneur. Puis je me réjouis quand j'entends ça. Wow! Seigneur, tu transformes encore aujourd'hui. Puis on veut donner gloire à Dieu pour ça. Puis la semaine prochaine, on va voir des baptêmes. On va entendre les témoignages des vies transformées par l'Évangile. Hey, j'espère que vous allez être là. J'espère qu'on va célébrer ça ensemble. La gloire de Dieu à travers la transformation dans la vie de ces gens-là. On veut glorifier Dieu pour son salut, puis parce qu'il agit encore aujourd'hui. On veut donner la gloire à Dieu pour ça. Puis il devrait avoir de la joie. Quand il y a une conversion, il y a de la joie dans le ciel, il devrait avoir de la joie dans l'Église aussi. Puis qu'on puisse célébrer ensemble avec ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, pour qu'on puisse donner gloire à Dieu pour tout ça. Et lorsqu'on voit que le Seigneur continue de nous sauver, de faire une œuvre dans les cœurs, on veut croire réellement, on peut croire réellement que l'Évangile est vrai, parce qu'il vient de Dieu, qui manifeste sa grâce et sa puissance par des vies transformées. Puis peut-être que tu es ici ce matin, jamais placé ta confiance en Jésus seul pour ton salut, puis sûrement en question la véracité de l'Évangile. Je t'invite à te mettre à l'épreuve, à lire. Mais si tu ne remets pas en question la véracité des Écritures, mais qu'est-ce qui t'empêche de croire? Qu'est-ce qui t'empêche de mener ta vie au Seigneur? Dépose ta vie aux pieds du Seigneur Jésus. Reconnecte tes péchés. Accepte le pardon qu'il a offert à la croix. Ce message, la bonne nouvelle, que tu peux être entièrement pardonné puis avoir la vie éternelle. Viens à lui, viens au pied de la croix, puis confesse ton péché. Demande-lui pardon. Crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité pour toi, puis vis, donne-lui ta vie, vis pour lui. Et pour les croyants, comme Paul, on veut être prêt à répondre, puis à se défendre pour l'Évangile qu'on a reçu. L'Évangile est vrai, c'est une grâce, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On veut se préparer, puis peut-être que tu as été ébranlé récemment dans ta foi, dans la suffisance de l'Évangile pour sauver. Peut-être que tu as été ébranlé dans ta foi, est-ce que c'est vrai tout ça? Pierre nous donne des exhortations dans 1 Pierre 3,15. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Si vous remettez en question, replongez dans les Écritures. Demandez à Dieu d'illuminer votre cœur pour que vous puissiez saisir à quel point son amour est grand, pour que vous soyez capable de parler de l'Évangile comme un message qui vient de Dieu, puis un message qui transforme les vies pour sa gloire. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, on est souvent ébranlé dans notre foi par des événements peut-être qui se passent dans nos vies, par ce que les gens peuvent dire, les arguments qu'on peut entendre de part et d'autre sur l'Évangile. Seigneur, on a besoin de replonger dans la parole pour saisir davantage l'Évangile. Et c'est seulement par ton esprit qu'on peut arriver à saisir la grandeur et la valeur de l'Évangile, combien il est un trésor pour nous, parce qu'il est ton message. Tu te révèles par l'Évangile, Seigneur notre Dieu. Seigneur, qu'on puisse être une église qui équipe les croyants à défendre leur foi, à avoir une foi ferme, et qui peut te glorifier à travers des vies transformées pour toi. Seigneur, ma prière, c'est que l'Évangile que Paul défendait puisse être, que nous puissions avoir ce même cœur, et qu'on puisse briller pour toi et te glorifier en étant prêt à affirmer la vérité et à se défendre avec douceur et respect devant ceux qui nous demandent raison de notre foi. Fais de nous une église qui brille pour toi, Seigneur Jésus, qui parle de toi dans la vie de tous les jours, qui est émerveillée constamment par l'Évangile, afin qu'on puisse te donner la gloire à toi seul, car toi seul es digne de recevoir la gloire et l'honneur pour l'éternité. Amen.